dit Michelin, il a plongé la main, prends mon nom, sauf ta maîtresse Kaïman. Mais gardez qu'il y a une femme peur, sauf mettez sous ça, dans sa consa, sous ça. So put him to sleep.
8.4 Radio Galère.
Et bienvenue dans Kixa. Aujourd'hui, on accueille Samuel Murez. Samuel, tu nous entends?
Très bien.
C'est bon, tu nous entends? Tu es avec nous?
Très bien.
Allez, super. Eh ben, bienvenue donc dans Kixa. Donc aujourd'hui, on va discuter avec toi, Samuel, de ton nouveau spectacle, puisque tu es un ancien danseur de l'Opéra de Paris et tu es en train de nous préparer un spectacle qui s'appelle Les Secrets du Ballet et qui sera donc en représentation à Marseille le 14 septembre à 20h au Silo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi les secrets du ballet ?
Tout à fait. D'abord, merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là et ravi de pouvoir parler un peu de ce projet que j'aime beaucoup. En fait, tout le monde, quand on parle de ballet, tout le monde se fait une image. Tout le monde a une image, même ceux qui font pas du ballet, mais pour beaucoup de gens, c'est une image, ah oui, un tutu, peut-être haut, des pointes, voilà, quels sont être le live des signes. En réalité, le monde du ballet, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Il y a aussi des gens qui se disent, ah oui, le ballet, voilà, c'est très beau, etc. Donc, je vais jamais aller en voir, c'est pas pour moi. Et ça, c'est un peu aussi de notre fait, parce que le ballet, c'est une forme qui date de Louis XIV, qui est assez ancienne, qui est très complexe, qui est très codée. Et on se retrouve souvent dans un cas où le spectateur, en fait, s'il vient, on ne lui donne pas des codes, donc il passe à côté de pas mal de choses. Ça, c'est quelque chose qui, depuis que je suis jeune, me dérange pas mal. Et il continue d'y avoir une demande pour voir certaines œuvres. Et donc, les secrets du ballet, c'est un concept que j'ai créé. D'abord, ça s'appelait Joyeux du ballet, ça a commencé en 2018. C'est l'idée de recréer un autre lien, un autre type de lien avec le public, ça on pourra peut-être en parler. De les amener avec nous, que ce soit pas du tout exclusif, mais inclusif, et de les faire rentrer dans notre monde. Donc en même temps qu'ils rentrent dans notre monde, ils voient, on va dire, les plus belles œuvres, vraiment des chefs-d'œuvre, des virtuoses, toutes sortes de choses chouettes, qu'une partie du public a très envie de voir danser par les danseurs de l'Opéra de Paris, qui normalement sont pas trop mauvais. Mais en même temps, au début et avant et pendant, en dansant, on leur donne des explications qu'ils vont faire, qu'ils vont voir les œuvres beaucoup plus comme nous on les connaît, et moins de manière un peu perplexe. Et ça change vraiment le rapport au public, ça change l'expérience du public, là, on fait ça un épisode comme une série, ça fait du coup plusieurs années qu'on fait ça avec les différents épisodes, et donc je peux confirmer que vraiment le public il comprend les œuvres complètement différemment. Et le dernier retour, parce qu'on demande beaucoup de retours au public, puisque quand on dit partage, il faut bien que le partage ce soit dans les deux sens. Un des derniers retours que j'ai beaucoup aimé, c'est fou dans ce spectacle, on a l'impression d'être vos amis.
Ah, c'est beau.
Et ça, c'est... Oui,
c'est beau fait, d'autant c'est plus ça, de la... Surtout d'autant plus de la part de danseurs classiques, où il y a vraiment une distance très très importante entre le public et les performeurs, quoi. Donc c'est vrai que c'est une très belle réflexion, mais d'ailleurs
dans un pays où parfois le public c'est pas tellement nos amis, c'est plutôt nos victimes en fait.
Alors pourquoi tu dis victime?
Je dis ça en référence à un concept historique qui s'oppose un peu au monde anglo-saxon, c'est-à-dire que aux États-Unis, le spectacle, au vu de son mode de financement, c'est de l'entertainment. Il y a forcément une notion de divertissement et il faut en avoir pour son argent. En France, en Europe, on peut construire une idée autour de Louis XIV, qui est le monarque qui, au moment où lui prend vraiment le pouvoir, il cherche des moyens d'asseoir son pouvoir. Et un des moyens d'asseoir son pouvoir est de projeter son pouvoir au-delà des frontières. Et même, en fait, il aura réussi parce qu'il aura projeté au-delà des siècles. C'est de dire, c'est moi, je suis le roi, moi, je décide de ce qui est beau. Et donc, il engage, il finance lui-même tous les plus grands artistes, les créateurs, dans toutes les différentes formes, et il décide, il codifie. Et donc, dans la danse, ils font en 1661 l'Académie royale de danse, Il dit, il y a un texte hyper drôle où il dit que c'est dingue que les fainéants se sont ingérés de montrer publiquement, ils ont porté cet art à la ruine irréparable, alors que enfin, c'est un texte très très drôle. Et il nomme 13 mètres avancés, il dit maintenant on va codifier la danse, ça va être comme je veux. Et du coup c'est une vision de la culture du spectacle, c'est pas de l'entertainment, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est le pouvoir public qui élève, qui cultive son peuple. Mais du coup, on n'est pas forcément là pour se marrer et passer un bon moment. Et cette notion-là, elle existe toujours très fortement dans la culture française. Alors, on a l'exception culturelle française qui est géniale, c'est-à-dire que c'est le pays qui finance la culture, ça permet plein de choses. Mais en même temps, ça veut dire que si on est diverti quand on va au spectacle, bah, c'est un peu suspect, pas terrible, et il faut quand même que ce soit un peu difficile, parce que ça montre qu'on est en train de s'élever. Et moi, c'est quelque chose... Moi, je suis franco-américain. Donc, du coup, j'ai un peu les deux côtés.
Ah, ça,
mais moi, le fait que les gens soient ravis de venir à mon spectacle et qu'ils en ressortent ravis et qu'ils veulent revenir, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu dès mes premières créations. Beaucoup de gens qui m'ont conseillé autour de moi et qui m'ont parlé, j'ai eu beaucoup de réactions. Tu devrais te méfier un peu. Tu sais, la frustration, c'est pas mal, la frustration. Est-ce que tu te sens obligé de toujours satisfaire ton public? Et donc c'est pour ça, et là j'ai fait le tour, je suis désolé, je suis un peu bavard. Hein, mais
non mais vas-y.
Avant de gentiment m'inviter sur l'antenne, on se retrouve dans une situation où l'artiste ou le créateur il fait plaisir en faisant un truc totalement incompréhensible. Le public il est là, donc c'est pas cher parce que c'est subventionné, mais il ne comprend rien, donc en fait... C'est inclusif par le prix, mais totalement exclusif parce qu'on les montre. Il essaie de se persuader qu'il est en train de s'élever, mais en fait, il s'ennuie à mourir. Et après, il sort, il dit bon, bah, c'était beau, et puis il espère juste qu'il peut attendre plusieurs mois avant qu'on l'oblige à nouveau à faire ça. Et donc, moi, j'ai vraiment envie de casser ça, mais j'ai pas envie de faire de la démagogie, j'ai pas envie de simplifier le spectacle pour faire ça. J'ai envie de faire des spectacles super riches, super complexes, sans compromis. Et donc, ce format, c'est le moyen de concilier ces deux envies. C'est-à-dire, oui, c'est riche, c'est complexe, le niveau est haut, mais comme on entoure ça d'explications, il y a aussi un programme numérique, mais ce que préfère tout le monde, c'est les explications dansées qui sont aussi un peu humoristiques avant et autour des pièces. On peut transmettre un spectacle et des idées super riches et complexes, mais on emmène les gens avec nous et du coup, ils peuvent quand même passer un moment. Et c'est pas exclusif, c'est inclusif. Voilà le secret, en quelques mots, plusieurs mots, pas mal de mots, le secret du ballet.
Mais en même temps, c'est très, très, comment dire, à propos. Moi, j'ai des souvenirs. Alors moi, j'ai pas mal évolué plutôt dans le jazz et puis dans le cinéma en tant que spectatrice. Et je me souviendrai toujours une phase où on est allé voir un saxophoniste qui s'appelle Émile Parisien. Et alors lui, sa particularité, c'est de danser avec son instrument sur scène. Et on était sur une des plus grandes scènes de jazz de France. Et j'ai mon pote à côté de moi qui est musicien de jazz et qui commence à être très, à être très méprisant envers lui parce qu'il danse. Et moi, je lui disais, mais c'est génial justement parce que c'est... Alors en plus, dans le jazz, c'était un art qui était populaire et qui est devenu plan-plan, on va dire, en tout cas, qui est devenu très fermé. Et du coup, je trouvais ça très triste, en fait, qu'on écoute ce type tous assis alors que lui était complètement habité de ce qu'il faisait. Et finalement, oui, peut-être que le musicien a fait des années et des années de théorie de la musique ou toi dans ton cas de théorie de la danse et sait faire des trucs très techniques, mais moi qui connais rien du tout, quand je viens vous voir je ressens une émotion et déjà c'est beaucoup. Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'est pareil chez les danseurs, mais je me souviens qu'il y a quelques années, je suis allée à l'opéra pour la première fois de ma vie. Et en fait, j'étais marquée par le fait que, au bout d'un moment, les chanteurs et les acteurs sur scène ont fait une très belle performance. Et puis, en plein milieu du spectacle, j'avais envie de les applaudir et de leur crier, mais de leur dire, mais tu me régales, là. Mais je sentais que c'était pas l'ambiance. Et je trouvais ça dommage parce que, finalement, c'est des beaux spectacles, quoi. Et alors, j'ai une question vis-à-vis de...
Alors, si tu viens voir le spectacle 14, il y a une annonce au début du spectacle humoristique, mais qui explique des choses très sérieuses et qui dit, là, sentez-vous libre de réagir comme vous voulez, quand vous voulez, ça nous aide à faire le spectacle.
Ah.
Donc, là, tu pourras crier au milieu, bravo, ou nous envoyer des bouquets, ou des légumes, on précise qu'il faut qu'ils soient d'origine biologique.
Ou des sous-vêtements. Des légumes
sur la scène. ça peut arriver. mais non, c'est, ben, quand on dit le mot partage, en fait, c'est justement qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Donc c'est vrai que si nous, on reste dans notre délire sur scène et que personne n'y comprend rien, oui, c'est approprié que tout le monde se taise et puis comme ça dérange pas ceux qui sont en train de dormir. Mais c'est pas du tout le concept. Enfin, il y a quelque chose pour moi qui est presque sociétal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent là, qui utilisent de l'argent qu'ils ont durement gagné et qui passent du temps précieux de leur vie pour concentrer leur attention tous ensemble au même moment sur ce qu'on est en train de leur montrer. C'est très important de l'honorer, ça.
Ouais.
C'est très très important. Alors, ce moment qu'on passe.
Moi, j'ai une question aussi parce que on va continuer à parler de Secrets du Ballet, mais j'aimerais beaucoup aussi qu'on parle de toi et de ta façon d'être venu à la danse. Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux de la danse ?
Moi, c'était l'aventure de la danse. Moi, je voulais échapper au reste et je suis tombé un peu dedans par accident. Franchement, enfin, les choix de vie professionnelle qu'on fait à 9 ans, hein, je pense qu'il faut s'en méfier un peu. Hein. Enfin, je veux dire, à 9 ans, il y a des gens qui voulaient être astronautes. Voilà, ils sont pas tous astronautes. Mais non, c'était parce que c'était excitant, parce qu'il y avait un côté dépassement de soi, et quand on a cet âge-là, de sauter dans les airs et de faire plein de tours et de faire des trucs virtuoses, c'est super, super excitant. En plus, il y avait un garçon qui était très, très admiré dans mon cours de danse par toutes les filles, parce qu'il était dans un conservatoire spécial, le conservatoire Maurice Petitpas, donc je suis allé voir un mec, je lui ai dit, je vais aller dans le conservatoire Maurice Petitpas. Mais c'était pour être admiré moi aussi par toutes les petites filles,
hein. Ouais, classique.
Mais voilà, mais le ratio garçon-fille quand on est petit dans la danse classique, il est très avantageux pour les garçons.
Eh oui, tout à fait.
Et après, en fait, je suis pas tellement. Enfin, j'ai beaucoup aimé le mouvement, mais j'aimais beaucoup l'aspect physique du mouvement, mais ça, c'est plus une notion de plaisir, c'est pas conceptuellement. Et après, moi, je suis pas tellement un homme de danse, je suis plus un homme de théâtre, de création de spectacles. Et c'est pour ça aussi que mes spectacles, dès le début, ont toujours été pluridisciplinaires. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup fait de mouvements, j'ai beaucoup créé de mouvements, c'est quelque chose où j'ai beaucoup d'expérience. Mais la dimension de la lumière, de la musique, du costume, du maquillage, de la mise en scène, du jeu, de la parole, du texte, tout ça, c'est d'autres aspects qui sont extrêmement importants pour moi.
Donc, et d'ailleurs,
c'est plutôt le spectacle.
Il y a quelque chose qui ressort dans les présentations qu'on voit, qu'on peut lire de toi sur les internets. C'est que tu parlais de pluridisciplinarité. Il y a aussi tout un pendant cinéma dans ta carrière qui revient un petit peu. J'ai l'impression que, ben, notamment Chaplin, ça a été quelqu'un qui a marqué ton œuvre. Je me trompe ?
Non, pas du tout. C'est alors oui, Chaplin. Bon, moi, il faut essayer de lui arriver à la cheville ou au bout du petit orteil, mais oui, c'est le genre de démarche moi que j'admire beaucoup parce que lui, il intervenait à tous les niveaux en fait de la création. Il a même composé ses propres thèmes musicaux et donc c'est un art total. Et après, il utilise toutes les composantes possibles du langage créatif pour transmettre son propos.
Alors moi je propose qu'on écoute donc un morceau de qui va être diffusé dans Les Secrets du Ballet et après on discutera peut-être un plus en détail des Secrets du Ballet. Donc c'est parti pour Chaconne, c'est ça, de Jérôme Machin.
Chaconne, ouais. Chaconne. Écoutons.
Merci, à tout de suite. Thank you. venez d'entendre Chacon sur Radio Galère 88.4. Vous êtes toujours dans Kixa avec Samuel Murez. Samuel, tu es toujours avec nous ?
Je suis toujours avec vous.
Est-ce que tu peux nous expliquer, donc ce morceau est tiré donc, de ton spectacle Les Secrets du Ballet. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ton spectacle quand tu choisis ce morceau-là ?
Alors ça, c'est un pack de qui raconte une séparation, la fin d'un couple, où il y a un passif et finalement, il y en a un des deux qui a décidé que c'est fini, l'autre n'est pas tout à fait sûr que c'est fini, et c'est vraiment leur séparation. Et c'est un moment qui est assez émouvant, qu'on a pas mal donné au fur et à mesure des années, parce que c'est souvent un des passages préférés des spectateurs. Dans les échanges qu'on a avec les spectateurs, on fait des questionnaires, donc on leur demande un peu les passages préférés. Donc c'est un des passages pour son côté émotionnel qui revient souvent. Et c'est aussi un jeu un peu avec la frontière entre qu'est-ce qui est classique et qu'est-ce qui n'est pas classique, puisque la musique est très classique. Donc c'est la question qu'on pose, c'est est-ce que ça rend la pièce classique, le fait que la musique soit classique, qu'est-ce que c'est finalement une pièce classique ? Et c'est aussi dans la chorégraphie, en fait dans les ballets traditionnels, c'est toujours l'homme qui agit sur la femme. La femme elle est sur pointe, donc elle a très peu d'appui, elle a toujours besoin d'être tenue, portée, déplacée, etc. Même dans les arguments, en fait, le personnage féminin il réagit toujours à ce que fait l'homme. L'homme tombe amoureux, l'homme trahit, l'homme machin. Et du coup, dans cette pièce-là, la femme a un rôle beaucoup plus actif, elle est beaucoup plus initiatrice et elle détermine les choses. Et de manière générale, d'ailleurs, dans les personnages dans Secret du Ballet, les personnages féminins ont tendance à avoir plus d'autonomie et de marge de manœuvre, à plus initier les choses. On a aussi, par exemple, dans ce qu'on fera, là, le 14, aussi le de Marseille, on a notre version qui est une version classique, très appréciée du pas de deux du balcon de Roméo et Juliette, une autre scène de couple, mais ça c'est un début de couple, et contrairement à certaines versions où en fait dès qu'ils se voient, ils sautent dessus et c'est pas du tout plausible, on a fait une version où c'est en fait c'est un rapprochement progressif de l'intimité, et alors c'est un peu anachronique, mais on a fait un Roméo légèrement plus respectueux des limites de Juliette, et donc c'est progressivement en fait elle qui le laisse approcher de plus en plus, voilà. Puisqu'au final, quand on y pense, hein, dans l'histoire, ils se sont juste dragués au bal, enfin, ils se connaissent pas. Donc,
oui.
Y a pas de raison que quand il arrive chez elle, en plus dans une famille ennemie, tout d'un coup, il se saute dessus dès qu'il voit.
Bien sûr.
Je trouve ça un peu étrange. Ouais. Mais je le fais un peu en contrepoint de ces deux pattes de couple. Hein, c'est un début de couple, hein, c'est un fin de couple, et ils ont deux styles très différents. Et le pas de deux de Roméo et Juliette est aussi un des moments qui ressort dans les moments parmi les plus appréciés. Donc voilà, ça c'est la chaconne de Vitaly, c'est juste l'interprétation de Yachar Eiffel, c'est une très belle interprétation, c'est très rare que l'accompagnement soit à l'orgue, c'est un enregistrement historique.
Voilà. Ah oui, tu m'étonnes. Et d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, tu parlais de réécriture, comment se place justement la question de la réécriture et de la modernisation quand tu es dans un médium qui reprend en fait éternellement des standards, en fait des pièces qui ont été écrites il y a plusieurs siècles.
C'est une super question, ça. Le spectacle Secret du Ballet, c'est un peu implicitement une réponse à cette question, parce que je pense que comme nous dans la danse, on ne s'est pas très bien occupé de notre public parfois, il y a des idées qu'on n'a pas transmises. Donc par exemple, je pense qu'il y a l'idée que les pièces qu'on est en train de montrer, c'est les mêmes pièces qu'en 1890 à la cour du Tsar, de petits pas à la création de la Belle au bois dormant, etc. C'est pas du tout vrai, en fait. Ces pièces, elles sont en train de bouger tout le temps. Alors là, je vais dépasser un peu le spectacle de Marseille, je vais parler d'épisode 3, mais par exemple, dans un ballet qui est un peu moins connu, mais quand même très connu, la Bayadère, aujourd'hui, les gens, ils viennent voir la Bayadère parce qu'il y a des magnifiques variations solo, virtuoses, très très virtuoses, pour ce genre, le personnage principal. Et donc on peut avoir un public parfois un peu traditionnel qui ah oui les variations voilà. À la création de Bayadère, il n'y avait pas une seule variation pour le danseur masculin, il n'y avait que de la pantomime, c'était un monsieur un peu âgé et il faisait que faire de la pantomime et tenir la danseuse, il n'y avait pas une seule variation. C'est dans les années 30 qu'un danseur, un virtuose géorgien qui s'appelait Chaboukiani, qui aimait faire de la danse folklorique géorgienne, a inséré en fait des grands solos dans la version, et depuis c'est devenu traditionnel.
D'accord.
Ça c'est un exemple que j'adore parce que en fait les choses, presque par ignorance, les gens essayent de garder les choses comme elles sont, alors qu'en fait, c'est une forme qui est tout le temps en mouvement, sans mauvais jeu de mots, et il faut qu'elle le soit. Il faut que chaque génération...
Oui, puis en plus, c'est pas... Enfin, je veux dire, les danseurs qui font ces mouvements-là, ces spectacles-là, sont loin d'être une communauté de gens qui c'est coincés, quoi. Enfin, vous êtes quand même... Vous travaillez avec vos corps ensemble.
Oui, tout à fait.
Vous faites la fête comme tout le monde, quoi.
Enfin... C'est vrai que peut-être que ce qui caractérise cette... Enfin, c'est une très longue tradition, très riche. C'est vrai qu'avant de... Il faut s'éduquer. Enfin, voilà, c'est pas pour rien, on commence à 6 ans, plus tard à 9 ans, plus tard à 12 ans si on fait ça professionnellement. Il faut se plonger dans notre histoire, dans l'histoire de la danse, il faut la connaître, il faut connaître tous les différents styles, il faut en faire des années et des années toute la journée. Mais une fois qu'on a vraiment absorbé notre tradition, et puis en plus on baigne, enfin, générationnellement, il y a toujours dans le théâtre, à l'opéra, il y a toujours plusieurs générations qui sont là, donc normalement les générations parlent ensemble et c'est comme un peu dans la médecine, il y a une transmission permanente en fait. En plus, nous, c'est que par tradition orale.
Oui.
Donc c'est très très important.
Oui, c'est ce que j'allais te dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de partition. Pourquoi il n'y a pas de partition d'ailleurs ?
Il y en a, mais on ne les utilise pas. Non, ça ne marche pas pour nous. Il y a des très rares chorégraphes qui les utilisent, mais de manière générale, non, c'est par tradition orale, même avec de la vidéo, mais c'est transmission de personne à personne. C'est très beau d'ailleurs. La manière dont ça se transmet. Moi, il y a des choses qui m'ont été transmises, qui sont en ligne directe de l'époque de Petit Pas.
Wow.
De quelqu'un qui l'a transmis à quelqu'un, qui l'a transmis au maître, de mon maître qui me l'a transmis. Quoi.
Et oui, ça, c'est très précieux.
Exemple,
comme
les brisés volés sont arrivés dans l'oiseau bleu, la belle opération. Voilà, des choses. Comment fait-elle pas? Comment il s'appelle J'ai un prof, un maître que j'ai eu à l'école de danse là maintenant, qui a quasiment 90 ans. Chaque fois que je le croise dans les couloirs à l'opéra, il vérifie que je me rappelle bien de ce que sont les brisés
télémac.
Il m'a appris quand j'avais 12 ans. Et il veut surtout pas qu'il y ait une erreur sur ses brisés télémac. Et donc je le rassure que je le rappelle. Alors, en plus, maintenant, il a vu que je chorégraphiais, donc il a vu que je mets, parce qu'il aime beaucoup la petite batterie, donc il était ravi qu'il y ait de la petite batterie à la française dans mes spectacles, parce qu'il n'y en a plus trop dans les
Alors, quand tu dis la petite batterie, quand tu dis petite batterie à la française, tu parles d'un instrument de musique ou tu parles d'un mouvement de danseur?
C'est un type de mouvement, c'est okay. Des sauts où on entrecroise les jambes en l'air.
D'accord.
Et en fait, ça c'est pareil, c'est un peu une supercherie, c'est-à-dire que on parle du style français. En réalité, le style français, c'est aujourd'hui le style Nourieff, mais Nourieff était russe. Nourieff, quand il est venu en France, il a refait tous les ballets.
D'accord.
C'est des versions qui sont dansées à l'Opéra de Paris. Donc maintenant, en fait, l'Opéra de Paris, c'est beaucoup le style Nourieff. Et les gens qui disent, moi j'aime bien les ballets traditionnels, en fait, ils sont en train de dire, s'ils les voient en ce moment à l'Opéra de Paris, ils sont en train de dire, j'aime bien les ballets Nourieff.
Eh oui, d'accord.
Et la petite batterie, mais il y avait une tradition française avant, par exemple, dans les années 30, 40, etc. Et j'ai aussi eu des maîtres voilà, qui ont eu accès à ces traditions-là. Et donc, dans les versions que je fais, j'essaye d'inclure un peu des différents univers que j'aime bien. Donc, je me réfère aussi à des enseignements que j'ai eus. Et le public aime beaucoup la petite batterie.
Oui, c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs. Toi, en tant que chorégraphe, où est-ce que tu te situes dans ton style, dans ta patte? Et notamment, comment est-ce que tu as trouvé cette patte-là par rapport à tes inspirations, quoi?
Moi, j'ai beaucoup d'inspiration, mais ce qui me motive, en fait, c'est le sens de ce que je transmets à un moment donné. Donc, par exemple... Secret du ballet, c'est un voyage. Le cœur de Secret du ballet, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la toute première question que tu m'as posée. Et c'est cette notion de partage et cette confiance que le public nous fait en nous accordant de son argent et du temps. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je veux l'emmener dans un voyage à travers divers styles. Donc, par exemple, si on parle là du silo à Marseille, peut-être on va commencer par toutes nos explications un peu drôles avec la technique, la gestuosité, le lectour, les pirouettes, les sauts, la batterie, enfin, les positions, les épaulements, tout ça. Et on va commencer, on va dire, si on part de quelque chose d'académique, de très retenu, donc on va passer par la Belle au Bois Dormant, avec une beaucoup de pureté, beaucoup de raffinement. On va aller ensuite vers un pas de lyrique, donc pas académique, peut-être quelque chose vers Roméo, et ensuite vers peut-être un pas de ce qu'on appelle demi-caractère, donc beaucoup plus virtuose, comme Don Quichotte. Et ce qui m'importe, c'est ce voyage, toutes ces œuvres dont peut-être un spectateur pourrait penser que c'est le même style, de lui dire non, attendez, regardez, c'est pas du tout le même univers, on n'est pas du tout en train de faire la même chose dedans, de replacer donc ces trois couples, mais les trois couples sont dans des états très différents. Et on va dire que l'inspiration, c'est de faire passer le sens au bon moment. Donc, par exemple, tu vois, je te parlais tout à l'heure de notre version de Roméo et Juliette. Si, comme ça arrive parfois, une jeune spectatrice vient me voir et me dit, à la fin, on nous écrit, ah, j'ai vraiment bien aimé la manière dont ça s'est comporté parce que j'ai trouvé ça cohérent par rapport à la sorte de basse hésitation qu'il peut y avoir au début d'un couple. Quand il y a un garçon qui me plaît, mais il y a cette question de dangerosité ou de distance, ou voilà, ça c'est bien. Alors que si quelqu'un me dit, j'ai rien compris, est-ce qu'il était cousin, est-ce qu'il était frère et sœur, est-ce que c'est un couple, on comprend rien à ton histoire. Ou comme ça m'a attristé une fois, je suis allé voir le lac des signes, et dès que le lac s'est fini, ma fille demande à sa maman, maman, tu peux me passer le programme pour comprendre l'histoire.
Voilà,
tragédie, quoi.
Eh oui. Oui, et puis en plus, c'est parti.
C'est le sens.
Oui, et puis je pense que les auteurs à l'époque l'ont écrit quand même pour raconter des histoires aussi. Et puis c'est vrai qu'après cette question de la modernité, c'est que c'est particulier. Moi, quand j'avais vu cette pièce de Mozart, donc plutôt à l'opéra chanté pour le coup, de l'enlèvement au sérail, ils avaient fait un effort d'adaptation, qu'ils avaient essayé de placer ça dans les années 30 pour un peu moderniser le truc. Et puis en fait, donc l'histoire de l'enlèvement du sérail, c'est un duo en fait d'une aristocrate avec sa bonne qui ont tous les deux un amoureux, mais on les empêche d'aller avec le type qu'elles ont choisi, et il y a deux autres gars qui font partie des domestiques et des aristocrates qui veulent absolument se marier avec elle contre leur gré. Et donc tout le principe de la pièce, c'est ces deux couples qui essayent de se retrouver malgré des mecs qui veulent rien entendre. Et donc à la fin, il y a le grand aristocrate qui littéralement fait une tentative de viol sur le personnage principal, qui se rend compte qu'elle est amoureuse d'un autre et qui, dans sa grande mansuétude, accepte de la laisser choisir. Et du coup, il y a tout le monde qui le remercie. Et ça, c'était quelque chose qui était très difficile à avaler pour moi, parce que là, on voit tout de suite que, en même temps, les danseurs et les auteurs sont obligés de chanter cette partie-là de la pièce, parce qu'elle a été écrite comme ça, et qu'il y a une grande culture aussi dans les arts de planche, en tout cas classique, de respecter à la lettre le texte et la musique. Et d'un autre côté, moi, j'étais épouvantée, quoi. Je comprenais pas pourquoi on remerciait quelqu'un qui a fait une tentative de viol de me laisser choisir le mec de mes rêves, quoi. Donc cette question-là, elle est...
Non, mais c'est un super exemple. C'est-à-dire, je pense vraiment que si on veut faire quelque chose de positif et de fort et de pertinent, on ne peut pas aujourd'hui présenter les œuvres exactement comme à leur création, sans aucun recul et sans réflexion. Les choses, elles n'ont pas tout le temps la même valeur historiquement. Il faut les remettre dans leur contexte. Donc présenter une œuvre en 1870, 80 ou 1890 et présenter en 2024, c'est pas la même chose. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut jeter les choses à la poubelle. Et les secrets du ballet, là, notamment l'épisode 1 qu'on fait à Marseille, le 14, c'est aussi ça. C'est un format où tu peux venir voir des magnifiques œuvres que tu as très envie de voir, qu'on a tous envie de voir, que nous on a envie de faire, parce qu'en plus c'est des danseurs qui travaillent ce style et cette technique depuis leur plus jeune âge, mais dans un contexte qui a un sens aujourd'hui.
Et est-ce que justement, voilà,
la Belle au Bois Dormant, on n'est pas en train de dire voilà au premier degré, et donc si t'as une fille qui dort, ouais, tu l'embrasses, quoi.
Mais alors,
c'est
voilà,
pas, c'est pas ça le propos.
Est-ce que cette question-là, justement, elle a joué dans ton choix de découper, c'est-à-dire que tu as pas fait une réadaptation d'une seule pièce, tu as choisi, tu parlais de La Belle au Bois Dormant, de Mephisto, de Roméo et Juliette, donc tu as choisi des bouts de plein d'histoires différentes. Est-ce que cette question-là, elle a joué dans le fait de segmenter
plutôt que de faire qu'une seule? Ce qui joue principalement, c'est cette notion dont je te parlais de voyage.
Okay.
C'est vraiment quelque chose qui revient dans ce que nous disent les spectateurs. Et si tu veux, ce spectacle, on l'a beaucoup travaillé, ça t'emmène vraiment à travers le temps. Donc tu as l'impression de suivre avec nous la marche de l'histoire, à travers l'histoire de la danse. Et c'est quelque chose de très très puissant, parce qu'en fait, ce dont je te parle, tu vois, de moi, dans ma génération, d'être un créateur et de me poser des questions de créateur, chaque génération fait ça. Chaque génération reprend. Voit ce que la génération d'avant a fait, l'intègre et le transforme et propose quelque chose à son tour. Et c'est très fort, c'est une sorte de dialogue, tu vois, à travers les âges. Et donc le spectacle, il montre ça, tu vois, il montre les règles que Petit Pas s'était imposé, mais peut-être donc à l'académique en rupture, quoi, avec l'académisme, avec le romantisme, pardon, lui c'est dit académique et il est en rupture avec le romantisme. Et puis après, Balanchine, tu vois, le néoclassique qui va arriver début du 20e, et eux, ils vont être en très forte rupture avec l'académisme, enfin, ils vont vraiment transgresser les règles. Et ensuite, tu as Forsyth, William Forsyth, qui lui part de Balanchine et rechange vraiment toutes les règles. Et William Forsyth, il est en ce moment à l'opéra, en train de travailler, et je le croise et on discute, et on peut discuter encore aujourd'hui de à quelle règle il touche, alors que ce mec, c'est de l'histoire vivante de la danse, quoi.
Et, ouais.
Et d'emmener le public avec nous à travers ces différents styles, et c'est génial, et le public, il voit ça, il voit les styles changer devant ses yeux, et du coup, il comprend, quand il voit une pièce arriver, il comprend où elle se situe, et il comprend pourquoi certaines règles ou certains aspects stylistiques sont comme ils sont.
Et, oui.
et il se fait une idée. Donc, par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va dire « Ah oui, en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais le néoclassique, c'est carrément quelque chose que j'aime peut-être même plus que la période académique, mais je n'avais jamais fait la différence,
oui,
parce que j'aime bien quand le poids du corps, il n'est pas sur sa jambe, et j'aime bien toutes ces notions de décalé. Et en fait, j'aime bien le néoclassique, et donc merci de m'avoir fait remarquer ça. »
Ouais, en fait, c'est ça, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu présentes, si tu montres... en transmettant, en fait, sans enlever la complexité de ce que font tes danseurs, en fait, les gens comprennent très bien, ils n'ont pas besoin de faire partie d'une famille de danseurs depuis 150 générations, quoi. Alors, on arrive...
pas du tout. C'est juste nous qui devons faire le travail et de se dire que le spectacle, il n'est pas pour nous, dans notre tête, il est pour notre public. Et si on fait ça, le public et nous... On passe un super moment.
Ouais, ouais. Par contre, il nous reste 10 minutes d'émission. Alors, est-ce que parmi les morceaux que tu m'as envoyés, est-ce que tu veux qu'on écoute en priorité l'Adagi de Fedeseyev, Mephisto ou 4x4?
Et c'est lequel le premier?
La belle Adagi de Fedeseyev, Leningrad, Philharmonique.
Ah. Oh là là! On ne sait que choisir, c'est des moments. Je sais, pas la belle, parce qu'on en a déjà parlé.
Okay.
Mais peut-être Mephisto, c'est très beau Mephisto.
Allez, écoute,
je sais pas si tu veux le mettre en entier ou c'est un peu long ou un extrait pas trop long.
Ça va, je mettrai un extrait pas trop long et puis on reprend la discussion juste après. À tout de suite sur Radio Galère 88.4. Samuel, pourquoi est-ce que tu as choisi de nous faire écouter Mephisto, qui est d'ailleurs, j'ai l'impression, une assez récurrent dans les vidéos promotionnelles du spectacle, qui a l'air d'être un moment assez important.
C'est vrai que c'est assez récurrent. C'est une pièce qui représente bien ce cheminement, tu vois, ce voyage à travers les styles et les époques. C'est une pièce du coup qui est néoclassique, qui va sembler, on va dire, au public très classique parce qu'elle est très belle, elle est sur pointe, elle est lente, la danseuse qui danse ça le fait magnifiquement bien. Mais en réalité, comme elle n'est pas sur sa jambe, comme les axes sont décalés, comme il y a des positions qui sont un peu plus en dedans au lieu d'être en dehors, c'est-à-dire l'axe de la jambe, ça rentre pas du tout dans la même catégorie stylistique que la période académique, et c'est du néoclassique. Et c'est un moment, on travaille beaucoup la lumière, c'est un moment dans un clair-obscur, avec de la fumée, très paisible, c'est sur cette transcription d'une cantate de Bach. Et ça, c'est une sorte de trait d'union, si tu veux, entre la période académique et ce qui va venir après, tout en étant un moment que le spectateur aime beaucoup, parce qu'il y trouve ces notions de ligne, de beauté, d'harmonie, d'émotion qui cherchent dans un spectacle classique. Et il y a une sorte, c'est pas complètement narratif, mais il y a des références. Souvent, on a cette figure de la danseuse qui t'appuie, qui peut-être elle est ensorcelée, ou elle est mourante, ou elle est endormie. Enfin, c'est un sorte de thème récurrent. Et donc, sans être explicitement narratif, on s'appuie sur ce genre de langage. Donc le poids, il est toujours en train de retomber dans des grands arcs. Et voilà, c'est une pièce que j'aime bien et que le public aime bien aussi. Et qui sera au programme le 14 au Silo à Marseille.
Et alors justement, donc le 14 au Silo à Marseille à 20h, vous pourrez découvrir les secrets du ballet de Samuel Murez qui est avec nous. J'ai une dernière question avant de se quitter. Les danseurs que tu as choisis, comment est-ce que tu as choisi tes danseurs pour faire les secrets du ballet?
Un peu comme les pièces, c'est pour le sens. Alors bon, on va pas se leurrer, une partie de ce que les gens viennent voir, soyons honnêtes, c'est le niveau de danse de danseurs du ballet de l'Opéra. Oui. Donc c'est vrai qu'ils se produisent là à leur propre titre, moi dans mon projet, mais leur formation c'est la même que la mienne, et ce sont des danseurs en activité. Il y en a certains qui sont des solistes qu'on peut voir dans les tout premiers rôles, les rôles principaux. Il y a des gens qui viennent le soir voir par exemple Don Quichotte, et le même danseur qu'ils vont voir dans Don Quichotte à l'Opéra de Paris sur la scène principale, il sera dans mon spectacle au Silo à Marseille le 14. Donc c'est pas n'importe quel danseur. Et une partie du plaisir, c'est de voir ce niveau de danse. Il y a aussi de la danse de classique de pas très bon niveau qui se fait partout en France. On peut aller voir des Lacs des Cygnes, des Castagnettes, des machins, mais je crois que tout le monde sait que voilà, c'est pas tout à fait le plus haut niveau. Ce que viennent voir les gens dans un spectacle comme ça, c'est ces danseurs qui ont vraiment fait partie de la tradition la plus exigeante, qui ont toute cette formation et qui sont en activité. Donc il y a un premier prérequis, c'est le niveau, et c'est de les mettre dans une pièce où leur corps et leur manière de danser et leur personnage va être adapté. Donc forcément, une pièce virtuose avec des sauts, bah, tu mets un danseur qui a des sauts virtuoses, alors qu'un Roméo et Juliette où il y a des questions de partenariat, de portée très compliquée, tu vas mettre des danseurs qui sont très très bons en termes d'émotion et de narration, et techniquement, qui va faire des beaux portées. Donc c'est une question de choisir ça. Et après, il y a aussi un choix qui se fait naturellement, parce que cette démarche, on va dire, d'aller vers le public, ils sont quand même en activité à l'Opéra toute la semaine, donc le week-end, de venir en plus, de voyager, de prendre le train, de se produire sur toutes sortes de scènes, dans une démarche d'aller vers le public, d'ouvrir notre art, et dans cette forme de partage et de travailler aussi les textes, les explications, de travailler l'humour, pas tout le monde a envie de faire ça.
Et oui, bien sûr.
Donc j'ai de la chance d'avoir des super danseurs qui sont motivés par ça. Mais c'est aussi ça le choix, c'est que eux ils choisissent de le faire parce qu'ils croient dans cette démarche et qu'ils ont envie de vivre ces moments avec le public. Ils sont prêts à sortir de leur leur tour d'ivoire un peu, des conditions, on va dire, idéales.
Oui, puis
de bouger
et puis de faire une croix aussi sur des temps de repos, puisque quand même vous utilisez votre corps quoi pour travailler. Donc comme tu disais, prendre le train et aller partir le week-end en plus de l'opéra, c'est quand même une démarche, c'est un don de soi aussi quoi. D'ailleurs,
oui, il faut le vouloir, mais là j'ai la chance que ceux qui viennent là, ils ont vraiment envie de le faire, ils donnent énormément sur scène.
juste avant qu'on se quitte, donc, vous pourrez retrouver Les Secrets du Ballet donc de 3e étage, chorégraphié par Samuel Murez, donc, sur les réseaux, Les Secrets du Ballet, mais également le 14 septembre au Silo à Marseille à 20h. Donc n'hésitez pas à aller tout de suite sur l'Instagram du spectacle pour trouver la billetterie et aller voir ce show absolument unique. Et par contre, j'ai une toute petite dernière question. Tu disais que c'était la première partie. Est-ce qu'il est question de triptyque dans cette histoire de Secrets du Ballet?
Alors, c'est comme une série, parce que moi j'aime bien les voyages, comme je disais tout à l'heure. Il y a plusieurs épisodes. Donc, on en est à l'épisode 1 à Marseille. Après, c'est un projet entièrement indépendant, sans subvention, autoproduit. Donc, c'est les villes où il y a beaucoup d'enthousiasme, où il y a plein de gens qui viennent et où on arrive à grand peine à trouver l'équilibre, où on fait un autre épisode. Mais les épisodes, ils existent. Et chaque épisode raconte une nouvelle période, de nouvelles idées, de nouvelles pièces. Par exemple, l'épisode dont je te parlais, on a un épisode où William Forsythe m'a donné une de ses pièces pour inclure dans ce spectacle. Donc on a une pièce que maintenant, je crois qu'on est les seuls à présenter en exclusivité parce qu'elle ne se danse plus dans le monde et on a une manière exclusive de la présenter. Et ça, c'est dans un autre épisode.
Et ben, j'espère que tu reviendras à Radio Galère pour nous raconter les prochains épisodes. Et puis en attendant, allez acheter vos places pour Les Secrets du Ballet. Samuel, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Et je te souhaite à très bientôt et de t'amuser sur scène.
C'était avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et à très bientôt.
À très bientôt. Je vous laisse écouter 4 par 4, qui est un des morceaux du Secret du Ballet, pour se dire au revoir. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine sur Radio Galère.
Je fais pas dealer et je suis pas noir, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent me nuire. Voyant jouer avec mes nerfs, ils me narguent, boycottent mon argué. Si bon qu'on me voit largué.